Vous écoutez, on lit pour vous.
L'Observateur des petits mouvements du cœur. Pierre Folliat, 1940-2025. Un texte de Dany Laferrière, paru le 31 juillet 2025 dans la presse. Folliat. Juste le nom provoque des émotions diverses chez les gens. Joie ou panique. Personne ne pouvait prévoir ce qu'il allait lire à la page 5 du cahier A de la presse quand le locataire s'appelait Folliat. Très peu de gens aussi savaient qu'il fallait oublier le G dans Folliat. Je l'ai appris, mais ça ne m'empêche pas de prononcer ce G fantôme. Je ne sais pas comment il s'est arrangé avec ce petit inconvénient identitaire dans son quotidien. Ce qui est sûr, c'est que nul n'était à l'abri de cet œil perçant qui vous voyait venir de loin. Un jour, il vous portait au nu, et le lendemain, il pouvait vous disséquer sur une table de marbre. Une main qui caresse ou une guillotine qui tombe. En fait, ce n'était pas si simple, car il n'était pas aussi prévisible que la plupart des chroniqueurs qui sévissent ici ou ailleurs. On doit admettre que Folliat et de calibre international. Entre ces deux situations précitées, la main ou la guillotine, il y avait une variété de nuances possibles. Et son style, ce style décapant, mais capable de langueur en même temps, l'empêchait d'être ringard. Si on écarte l'aisance, l'esprit, pas les mots d'esprit, l'ironie et ce talent fracassant, que trouve-t-on? Un bonhomme qui fait du vélo, répond à son courrier avec son genou, s'occupe de ses chats ou de son jardin, ne déteste pas les potins et cherche minutieusement un nouveau restaurant en ville pour y emmener sa fiancée. En fait, un vieux conservateur avec une âme d'anarchiste, ce qui donne un libertaire. De plus, il ne cesse de vitupérer l'époque. Plutôt moraliste que moralisateur. Lui, Folliat, sa bête noire, c'était la vulgarité. Pas la vulgarité selon les honnêtes gens, non. Il avait une vision particulière de la chose qu'il a exposée maintes fois dans ses chroniques. Pour éviter cette boue, il se sauvait par une porte dérobée, mais ne lui parlait pas de style proprement dit, il détestait le mot. Est-ce pourquoi il voulait une telle admiration à Bukowski, celui des contes de la folie ordinaire, de « L'amour est un chien de l'enfer », même s'il lisait rarement de la poésie. On doit comprendre alors que cette grâce d'écriture était apparente, mais qu'en réalité, il souffrait le martyre comme son vieux pote Bukowski. Une fois au Café Italia, j'ai décidé de savoir ce qu'il en était du style à ses yeux, car il est selon moi un écrivain de premier ordre. Son usage du joual, même si différent, est aussi important pour notre poétique que celui de Ducharme. Si Ducharme s'enivre de cette contre-culture, lui reste sobre, mais efficace. Entendant le mot « style », il a commencé par secouer vigoureusement la tête en signe de dénégation, comme fait ma petite fille quand elle refuse une bouchée. Il a martelé qu'il n'était qu'un chroniqueur qui doit faire, selon le contrat, 3 papiers par semaine et qu'il n'avait pas le temps pour frimer. Son style, il y va direct, flanquant des coups par-ci, par-là, gueulant ce qu'il a à dire, se taisant au point final. « C'est la première version ?» je lui demande. « Après-je, je corrige les fautes, » fait-il de cette voix aigrelette qu'il détestait tant. « Justement, Folliat, tu viens de décrire ton style, et cette facilité exige beaucoup de métier et une sorte de détermination. » Le jeu de tête reprend. « Non, non, je n'ai pas de style. Mon rapport avec ma petite fille m'a appris qu'il ne faut jamais contredire les enfants, les fous et Folliat. » J'ai pris un autre chemin, lui demandant à quel moment il avait compris que c'était ainsi qu'il devait écrire. Il est resté un long moment silencieux avant de me demander si j'avais lu « Les années » d'Annie Ernaux. « Ah, voilà le style, me dis-je. Il saute les réponses intermédiaires, ce qui accélère la conversation. » Cette vitesse subite crée une vibration si particulière dans l'atmosphère qu'elle donne envie de lire par-dessus l'épaule de Folia. Il vous met constamment en état de désir. En ce moment, il y a quelqu'un qui vient de se lever au milieu de l'article pour sortir de sa bibliothèque, les années, et le feuilleter un long moment, se mettant ainsi en intimité avec l'homme qui lui a fait connaître au fil du temps tant d'écrivains. Mais « Les années » n'est peut-être pas le livre qu'il préfère de cette romancière, car je le soupçonne de lire en cachette « La place » qui parle du père d'Ernaux ou « Une femme » où elle met en scène sa mère. Vous écoutez l'observateur des petits mouvements du cœur, Pierre Folia, 1940-2025. Un texte de Dany Laferrière, paru le 31 juillet 2025 dans la presse. Folia, qui nous est apparue un jour pour écrire sous nos yeux ahuris, puis éblouis, le grand roman de notre vie quotidienne, est resté jusqu'à aujourd'hui cet être mystérieux, qui s'était emparé de notre esprit, puis de notre cœur. Nous savons que sa mère était revêche, le genre qui a toujours travaillé dur et ne laisse rien passer autour d'elle, et son père, à la fois timide et doux. Il ressemble à sa mère physiquement, mais il a la timidité de son père. Et sa douceur aussi. Ce chroniqueur, qui peut parfois être très violent, se croit toujours juste. Pour le clouer au lit, il suffit de lui faire savoir qu'il vous a fait mal, le dire simplement et sincèrement. Ah, un autre point pour le style. Il croit que la vraie morale se trouve dans la musique de la langue et qu'il ne peut pas être méchant si sa musique rejoint le sens commun. En un mot, si ça sonne juste. Est-ce pourquoi il refuse les mondanités ou même de rencontrer les gens si ce n'est pour devenir un ami? On peut compter ses amis sur les doigts d'une main. D'ailleurs, il en fait les comptes de temps en temps dans le journal. Tous des inconnus, sauf ce chroniqueur sportif dont la mort l'avait fracassé. On comprend la situation si on sait qu'Holden Caulfield, le narrateur perturbé par un trop-plein de sensibilité de l'attrape-cœur, le roman de Salinger, est son personnage littéraire préféré. Son seul échec en tant que chroniqueur était cette idée qu'il croyait pourtant bonne de se rendre chez les gens pour les voir vivre et noter leurs petits mouvements du cœur. On est moins libre dès qu'on voit un visage de trop près. Depuis, il a pris définitivement sa distance avec les acteurs de son théâtre de poche. Quand il a compris qu'il allait rester jusqu'à sa retraite à la presse, il a travaillé son souffle comme un marathonien. Le style, c'est la survie pour cet apprenti typographe, tout étonné mais nullement impressionné de passer chez les lettrés. Chaque année, il fait un article pour se rappeler qu'il n'est qu'un artisan tout en se désolant de cet art perdu du plomb. C'est son côté gauche prolétarienne. Il adore le sport. Parce que les résultats sont clairs. Le 100 mètres, la boxe, le cyclisme, le temps se compte en secondes. On perd une miette de concentration et on se retrouve KO. C'est l'une des plus durables passions de sa vie, mais aussi, ça lui permet de quitter le monde intellectuel ou politique pour retrouver la grande foule. La vie, quoi. Mais tenir une chronique durant plus de 40 ans, c'est long et épuisant. On se répète parce que la vie est bourrée de répétitions. À force, les lecteurs connaissent nos habitudes. Ils prenaient un mois par an, deux semaines ici, une autre là, et la grogne montait très vite. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-il encore allé? Il n'y a pas que le vélo dans la vie. Cette façon de le réclamer sans ménagement ni pas pour lui déplaire, car c'est exactement ce qu'il voulait être pour ses lecteurs. Un objet essentiel comme le téléphone ou une habitude comme le café du matin. Un élément de la nature comme la pluie d'été. Il a réussi à se fondre dans le paysage. Mais le style, sur une telle longueur, je n'ai pas encore compris comment ça fonctionne. Folia est fils d'ouvrier, qui sait que pour durer, il ne faut surtout pas se presser, tout en donnant l'impression d'aller plus vite que quiconque. Faire le mort pour mieux rebondir. Il a dû peaufiner cette technique des cyclistes du Tour de France, sans trop ruser aussi, car la ruse nous use avec le temps. S'arranger pour imposer son rythme. La ville peut bien s'exciter à propos d'un film, d'un livre, d'un jeune prodige musical, sauf s'il s'agit de Plume la Traverse. Folia en parlera quand ce sera le temps. Le présent ne se fait pas uniquement avec les événements. Finalement, il se sentira toujours proche des échappées et des ruptures de ton de Céline et de son humour terrifiant qui cache malgré tout un cœur palpitant. Je crois tout de même qu'il s'était arrêté à son premier roman. Voyage au bout de la nuit. Alors comment s'organisait-il pour affronter ce monstre, le temps? Il s'est fragmenté en mille figures qui sont tant de chapitres d'une vie que ne fut pas aussi amusante qu'on croit, car le chroniqueur devait rester immobile à se gratter la tête pour faire cette chronique, où nous trouverons sûrement un mot, une phrase, un silence, une métaphore qui nous aidera à sourire une partie de la journée. J'ai failli oublier son sujet le plus obsédant. Il n'en parlait jamais longuement, mais il y revenait toujours. Au Café Italia, ce jour-là, je me suis arrêté juste avant de lui poser cette question vulgaire à force de familiarité. Et la mort? Ah, la belle de Cadix, comme il l'appelait dans sa page. Finalement, il a échappé au cancer du côlon qui l'effrayait tant. C'était l'observateur des petits mouvements du cœur, Pierre Folia, 1940-2025. Un texte de Dany Laferrière paru le 31 juillet 2025 dans La Presse.
La lecture en français, un atout gagnant à Kamloops. Un texte de Louisa Sage paru le 25 juin 2025 dans La Source. Deux cabanes à livres aux couleurs vives installées devant les locaux de l'Association francophone de Kamloops, AFK, contribuent à faire vivre la littérature francophone. Cet été, un nouveau concours permettra d'encourager la lecture en français chez les enfants comme chez les adultes. Petite cabane, grande mission. L'objectif premier de nos cabanes à livres est de susciter l'intérêt pour la lecture en français, explique Andréane Davis, directrice générale de l'AFK depuis janvier dernier. Lancées il y a moins d'un an, ces cabanes sont un prolongement de la bibliothèque de l'AFK. Elles ont été conçues afin que notre bibliothèque soit ouverte 24 heures. Nous recevons régulièrement des dons de livres, souvent en bon état, de la part de notre communauté. C'est notre façon de rendre accessible la lecture en français pour tous. La directrice générale indique que la cabane la plus haute s'adresse aux adultes, qui est surtout utilisée par les membres de l'AFK, tandis que la plus petite, destinée aux jeunes, attire les curieux après les activités parascolaires. Concours de lecture. L'AFK s'inspire d'un concours de la Bibliothèque municipale de Kamloops. Les participants recevront un sac contenant un carnet de lecture et un livre neuf ou en excellent état. Dès qu'ils viennent chercher leur sac, nous les inscrivons sur notre liste pour le concours. Et à la fin de l'été, nous allons faire un tirage avec plusieurs prix à gagner, explique-t-elle. Ouvert à tous, le concours prévoit des prix adaptés à l'âge des gagnants. des cartes de cadeaux pour Tumbleweed Toys pour les enfants, pour Michaels pour les adolescents et pour Chapters pour les adultes. La sélection dans les cabanes sera régulièrement renouvelée afin de créer de l'excitation et d'encourager le partage. L'objectif des cabanes à livres, c'est vraiment que nous nous en servions pour échanger. Mais nous comprenons aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres. Nous voulons vraiment donner l'occasion à tout le monde d'avoir accès à des livres en français à Kamloops, dit Andréanne Davis. Ambassadrice de la lecture. Hélène Dufour, qui fréquente souvent les cabanes, adhère pleinement à leur mission. Dans un milieu où le français est minoritaire, je trouve que les cabanes sont vraiment bien parce que c'est difficile de trouver des livres en français, dit-elle. Aussi, ça coûte cher de toujours les commander. Originaire du lac Saint-Jean, elle s'est installée à Kamloops en 1990. Récemment retraitée de l'enseignement en immersion française, cette lectrice passionnée voit dans les cabanes à livres un atout pour la communauté francophone. Les cabanes à livres, ça permet de découvrir de nouveaux auteurs et de nouveaux livres que je n'aurais peut-être pas choisis. En tant que membre d'un club de lecture, elle achète régulièrement des livres qu'elle apporte à la cabane une fois lus. Ça donne une deuxième vie à nos livres au lieu de les laisser sur les étagères. Aussi, ça incite à lire davantage. Puis, c'est bon pour l'environnement. Si lire est pour Hélène Dufour une récompense en soi, elle se réjouit de participer au concours de lecture. Cet été, les cabanes à livres de Kamloops feront parler d'elles, mais elles sont loin d'être un phénomène rare. On en trouve un peu partout à travers la province. À Nelson, par exemple, certaines vont encore plus loin en proposant des œuvres d'art et des matériaux artistiques. Ainsi, ces petites installations ouvrent un véritable monde de possibilités. C'était « La lecture en français, un atout gagnant à Kamloops », un texte de Louisa Sage, paru le 25 juin 2025 dans La Source.
Back to the Future. 40 ans est toujours aussi intemporel. Un texte de François Lévesque, paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir. Marty McFly est un adolescent un peu différent des autres. Ses temps libres, il ne les passe pas avec des copains de son âge, mais avec un vieux savant, Doc. Une nuit, après s'être retrouvé dans la machine à voyager dans le temps inventé par ce dernier, une DeLorean modifiée, Marty est transporté 30 ans en arrière en 1955. Or, son arrivée impromptue dans le passé compromet la future union de ses parents, George et Lorraine, et donc sa propre venue au monde. Tout en jouant les entremetteurs, Marty doit aider Doc, version 1955, à devancer ses découvertes spatio-temporelles. Succès phénoménal à sa sortie il y a 40 ans en juillet 2025, Back to the Future, Retour vers le futur, faillit ne jamais se faire. Le réalisateur Robert Zemeckis et son co-scénariste Bob Gale désiraient de longue date écrire un film traitant de voyage dans le temps, mais sans parvenir à imaginer un récit intéressant. L'illumination m'est venue en tombant sur le vieil album de fin d'année de mon père. Je me suis demandé, aurions-nous été amis si nous avions été à l'école ensemble? Nous avons tous cette prise de conscience tôt ou tard que nos parents ont eux aussi été jeunes. C'est un moment important. Et puis, il y a ce message que nous sommes tous maîtres de notre destinée. J'ai pensé que nous pourrions mettre ces deux concepts en commun, explique Bob Gale au Guardian en 2014. Dès 1980-1981, Zemeckis et Gale firent le tour des studios en vain. Motif des refus, la dimension trop chaste du film, la mode étant aux comédies libidineuses à la Porky's, chez Porky. Pourtant, l'une des principales sous-intrigues de Back to the Future est à connotation incestueuse, rien de moins.
De fait, Marty, Michael G. Fox, est tombé dans l'œil de Lauren Lee Thompson, sa future maman, qui le poursuit de ses avances. Un béguin qui contribue à compromettre l'existence même de Marty. Dans le contexte d'une production hollywoodienne grand public, cet élément était audacieux. D'ailleurs, c'est précisément cette composante du récit qui rebuta Disney. Dans le recueil d'entretien « The Directors Take Two », paru en 2002, Robert Zemeckis se souvient. Personne ne comprenait ce que le film essayait d'accomplir. Personne, sauf Steven Spielberg, qui a lu le scénario et a dit « Oui, je vais produire ce film ». Ne restait qu'à convaincre un studio. Jeu de contraste. En 1984, le troisième film de Zemeckis, la comédie d'aventure « Romancing the Stone » à la poursuite du diamant vert, remporta un immense succès. Succès qui permit au cinéaste de revenir à « Back to the Future ». De poursuivre Zemeckis dans le recueil, tous ceux qui avaient refusé « Back to the Future » voulaient désormais le faire. J'ai donc pensé qu'il était normal de le confier à celui qui y croyait depuis le début. J'avais aussi des motivations égoïstes, car à ce moment-là, le nom de Steven Spielberg était synonyme d'un certain type de film. Steven était devenu une marque et l'associé à Back to the Future était tout indiqué. Le film se ferait sous la bannière Universal, où Spielberg avait entre autres réalisé E.T. et Jaws, Les Dents de la Mer. Le studio ignorait alors que Back to the Future deviendrait un autre de ses fleurons. Le film repose sur un mélange savant, mais jamais forcé, de dynamisme, de drôlerie et de tendresse, sur fond de situations foncièrement inusitées. On pense à l'effarement de Marty en constatant que sa mère, Lauren, si malheureuse et pudibonde en 1985, était enjouée et fort entreprenante en 1955. On songe également à la manière dont Marty prend son père, George Crispin Glover, sous son aile face à l'intimidant Biff, Thomas F. Wilson. À noter que le Biff en question s'imposa d'emblée comme un mémorable méchant de cinéma, avant de se muer en une prémonitoire figure trumpienne dans Back to the Future 2. Ayant eu tout loisir de peaufiner le scénario au fil des ans, Zemeckis et Gale ont truffé celui-ci de blagues irrésistibles jouant sur les contrastes entre présent et passé. Par exemple, lorsque Marty mentionne que Ronald Reagan est devenu président, ses interlocuteurs de 1955 qui ne connaissent Reagan que comme acteur se moquent de lui. Anecdote. Un président Reagan hilar aurait demandé au projectionniste de la Maison-Blanche de lui repasser cette scène. Pour incarner Marty, Robert Zemeckis n'avait que Michael G. Fox en tête, mais il dut se résoudre à embaucher quelqu'un d'autre. Dans The Directors Take Two, le cinéaste révèle « Le studio m'avait donné un ultimatum ». Si le film ne pouvait pas être livré pour une certaine date de sortie, il ne voulait pas le faire. Mon premier choix était Michael G. Fox, mais je n'ai pas réussi à le faire sortir à temps de sa série Family Ties. J'ai donc choisi Eric Stoltz. Aussi doué que soit la jeune vedette du film Mask, le résultat à l'image ne fonctionnait tout simplement pas. Après 3 ou 4 semaines de tournage, j'ai compris que j'avais commis une énorme erreur, poursuit Zemeckis. Eric est un acteur formidable, mais il n'était pas à l'aise dans ce genre de rôle. Je suis donc allé voir Steven et je lui ai fait part de mes impressions. Nous sommes ensuite allés voir Michael G. Fox et lui avons essentiellement demandé s'il accepterait de travailler 24 heures sur 24 en faisant Family Ties le jour et Back to the Future la nuit. Il a accepté et nous avons tourné à nouveau les scènes que nous avions faites avec Eric. Une décision après coup avisée, mais dont les implications contractuelles et logistiques firent passer le budget de 14 millions de dollars américains, alors typique de ce genre de production, à 19 millions, le budget du succès de Goonies, les Goonies, sorti la même année et coproduit par Spielberg. Dans l'article susmentionné du Guardian, le directeur photo Dean Cundey, The Thing, La Chose, Jurassic Park, le parc jurassique, confie au sujet de l'acteur et de l'horaire de travail nocturne. En début de semaine, travailler tard, c'était bien, mais arriver au vendredi, tourner presque toute la nuit, c'était assez fatigant, même si c'était un tournage réellement amusant. Michael a dû surmonter sa fatigue. Il était très animé pendant une prise, mais je l'apercevais ensuite assis sur sa chaise, essayant désespérément de ne pas s'endormir. Il était tellement attachant. Il avait un effet très positif sur le plateau. D'où nous venons? Chose certaine, il est impossible d'imaginer un autre comédien que Michael J. Fox dans le rôle de Marty. Back to the Future est l'un de ces cas d'espèce où l'adéquation entre l'interprète et le rôle est en tout point parfaite. Ce qui contribua assurément au triomphe du film, qui fut le plus populaire de l'année 1985. Une douce revanche pour Zemeckis et Gale, dont le scénario original, c'est le cas de dire, reçut une nomination aux Oscars. S'ensuivirent deux suites, une série animée, un spectacle musical, des jeux vidéo. Dans une entrevue de 2020 au Guardian, Michael J. Fox relate « J'ai montré à mon fils Sam des films que j'adorais à son âge, et il n'a rien compris. Mais si on montre Back to the Future à un enfant aujourd'hui, il comprend. » C'est quelque chose d'intemporel, ce qui est paradoxal puisque le thème principal du film, c'est le temps. Dans The Director's Take Two, le futur réalisateur de Forrest Gump conclut pour sa part. Nous n'imaginions pas que Back to the Future serait aussi populaire à travers le monde. Cette idée de revenir en arrière, de retrouver nos racines, de découvrir d'où nous venons, et voir comment étaient autrefois nos parents, c'est quelque chose que tout le monde comprend. C'était Back to the Future, 40 ans et toujours aussi intemporel, un texte de François Lévesque paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir.